Le grand témoin. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque dimanche pour vous présenter celui qui sera le grand témoin. Et pour ce dimanche, c'est Franck Diongo-Chamba qui sera notre invité. Il est homme politique congolais. Actuellement, il est député national et président du mouvement lumumbiste progressiste MLP. C'est un parti politique de l'opposition.
Et je suis dans les affaires également.
Quel genre d'affaires?
Construction, import-export.
Avec vous, dans cet entretien, nous parlerons de vous. On va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Okapi qui nous suivent en ce moment à travers le pays et même en dehors du pays grâce à notre site internet www.radiookapi.net. On parlera de votre parcours politique, de vos débuts dans la politique, de ce qui vous a attiré dans la politique, mais on va également commenter l'actualité. Comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui, c'est le discours du chef de l'État devant le Congrès. Il a annoncé plusieurs mesures, entre autres la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. On va en parler tout au long de cette émission, mais avant cela, commençons par une petite biographie de votre personne. Vous voyez le jour à Diallo, le 24 décembre 64.
Oui.
Diallo, c'est dans le Kassai oriental.
Exactement.
Et c'est là où vous avez grandi, vous avez passé votre enfance.
La petite enfance, parce que j'ai passé presque toute ma vraie enfance à Kinshasa.
Donc vous avez quitté Diallo dès le bas âge pour venir à Kinshasa.
Exact.
Vous avez beaucoup plus grandi à Kinshasa.
Et voyagé ailleurs, oui, par-ci, par-là.
Alors parlez-nous un peu de vos études.
Au niveau secondaire, j'ai fait les études maths. Et c'est ça, et j'ai un diplôme de maths physique au niveau secondaire.
Quelle école?
Institut ETT. Donc le diplôme d'État, c'est à Diallo. Et ça, c'est la première chose sur les études secondaires. Au niveau de l'université, j'ai fait ce qu'on appelle une formation interministérielle avec comme formation de base ingénieur de construction civile. C'est-à-dire que j'ai terminé avec une mention de distinction en construction et à l'Institut du bâtiment et des travaux publics.
À l'UBTP?
À l'UBTP. J'ai également un diplôme d'ingénieur technicien à construction industrielle de bâtiment. J'ai également un brevet spécial en finances publiques. J'ai également un brevet spécial en philosophie des droits. J'ai pratiquement 7 ou 7 8 brevets, finances publiques, psychologie des négociations, philosophie des droits. Et je m'en passe. Donc,
pourquoi beaucoup de formations comme ça font
beaucoup de formations parce que j'ai l'ambition de diriger le pays. Il faut connaître beaucoup de domaines et on voit les modèles qu'il y a en France. Tous des grands politiciens en France, français, et subissent ce qu'on appelle la formation interministérielle. Donc, un grand homme politique doit avoir une formation verticale et transversale.
Et votre rêve, donc, c'est de diriger un jour le Congo?
Mon ambition, c'est de diriger le Congo. Et même aujourd'hui, en me spécialisant sur les questions congolaises, c'est parce que je voudrais maîtriser le Congo, connaître le Congo et comprendre la situation du Congo. C'est pourquoi parfois j'interviens comme chercheur sur la question congolaise, parce que je passe tout mon temps à comprendre et à connaître la situation du Congo, y apporter et des réponses. Et la dernière publication, comme chercheur sur la question congolaise, c'est sur l'inexistence, l'illégalité et l'illégitimité du Sénat, un document de 7 pages que j'ai publié dans les médias.
Mais dites-nous, vous avez grandi dans quelles conditions?
Dans les conditions de pauvreté. Je viens d'une famille noble. Mon père, c'était un directeur de l'école primaire. Donc, je suis un combattant qui se reconnaît dans la famille des pauvretés, dans la population. Et c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je me reconnais comme un homme qui ne peut pas sortir de la classe opprimée, de la majorité des Congolais qui souffrent. Je n'ai pas grandi dans l'opulence, je n'ai pas grandi dans une famille noble, je n'ai pas grandi dans les familles de richesse. Et c'est pourquoi une des raisons que je me bats pour sortir les Congolais de la pauvreté. C'est pourquoi j'étais solidaire lorsque les gens sont victimes de l'oppression, de la souffrance. C'est une des raisons que je me bats.
C'est un peu votre combat là.
C'est mon combat et jusqu'à la victoire finale.
Alors quel est le souvenir que vous a le plus marqué pendant votre enfance, pendant votre jeunesse?
Les plus grands souvenirs qui m'a marqué pendant ma jeunesse, c'est difficile de répondre.
Vous avez beaucoup de souvenirs qui vous reviennent
en tête. Est-ce que les bons ou les mauvais?
Je préfère qu'on parle
voir,
des bons souvenirs.
Il faut voir la.
Je préfère qu'on parle des bons souvenirs.
Le bon souvenir dans mon enfance, c'est sur le fait que mon oncle, papa Olela, ait accepté de prendre en charge mes études universitaires. Ça, c'est le grand-père de ma mère. et a beaucoup contribué pour que je termine mes études universitaires et qui a accepté de me prendre en charge. Ça, c'est le plus grand souvenir de mon enfance et pour contribuer à mes études. Donc, c'est parce qu'il a mis que son âme repose en paix, c'est parce qu'il a appuyé mes études que j'ai réussi à terminer et aller à l'extérieur, en Europe, en Afrique du Sud et ici, toutes ces formations que j'ai faites au Congo et à l'étranger. Et c'est parce que mon oncle m'a soutenu. Donc, ça, c'est un élément que je n'oublierai jamais.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas dans la vie, c'est la trahison. C'est la trahison, les valeurs négatives, sur les mensonges.
Vous n'aimez pas la trahison, vous n'aimez pas être trahi ou vous n'aimez pas trahir?
Je n'aime pas la trahison, je n'aime pas trahir. Ce n'est pas que je n'aime pas que je sois trahi parce que j'ai toujours été trahi. Je n'aime pas moi trahir l'idéal auquel je combats. Je n'aime pas trahir ma conscience. D'abord moi-même. Je ne peux pas trahir ma propre conscience. Si je ne peux pas trahir ma conscience, c'est difficile que je trahisse ni le pays, ni les combats, ni autrui.
Vous êtes sûr?
C'est une conviction ferme, madame.
Alors, Franck Diongo, dites-nous, vous êtes marié?
Et je suis père de 4 enfants et je ne suis pas légalement marié.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin vous fait découvrir aujourd'hui, Franck Diongo Chamba. Il est homme politique et aussi chercheur sur la question congolaise. Franck Diongo, on va parler de vos débuts dans la politique. Dites-nous, qu'est-ce que vous a attiré en politique?
Je commence mon combat dans les années 90. Dans les années 90, nous étions avec le maréchal Mobutu qui avait la dictature. Et ici, il y a le président Tshisekedi qui montrait, qui combattait pour la démocratie. Et en 90, lorsqu'on a libéralisé, nous étions plus poussés de sortir les Congolais de la souffrance et on croyait que la démocratie, c'est l'amélioration de la qualité de la vie. Les jeunes trouveront du travail, la pauvreté, on va changer la pauvreté, on va améliorer la qualité de la vie. Et c'est pour cette raison que moi, personnellement, j'étais poussé à soutenir le combat de la démocratie. Et c'est cela notre entrée et dans le combat pour la démocratie.
Et donc, vous avez estimé que le président Mobutu ne travaille pas pour le bien de son peuple ou de son pays?
Oui, exactement. J'étais parmi les jeunes qui étaient convaincus que le président Mobutu incarnait la misère et qu'il fallait une démocratie pour sortir de la dictature et qu'il fallait plusieurs partis politiques et notre pensée allait tout droit à croire à un changement. C'est pour y aller dans les années 90, il y a ce qu'on appelait les cas du statu quo et les cas du changement. Mm-hmm. Et c'est les mêmes éléments du changement que je continue à croire et à combattre jusqu'à aujourd'hui.
Vous avez fait même la prison pendant la Deuxième République?
J'ai été plusieurs fois arrêté par le maréchal Mobutu et d'ailleurs j'étais le dernier prisonnier politique. À l'époque où Mouzé venait, j'étais arrêté au camp Tchatchi où je suis libéré le 17 mai à l'entrée de la FIDEL par les militaires de la FIDEL. Et comme prisonnier politique, j'ai nettoyé les sangs du général Maélé. J'étais obligé de faire effacer les traces quand il a été exécuté, il a été tué. J'étais au camp Tchatchi. J'écris même mes livres sur l'assassinat du général Maélé. Et donc ce sont des très mauvais souvenirs. Et d'ailleurs, si tu m'avais demandé les plus mauvais souvenirs, c'est là que j'ai le plus mauvais souvenir, le jour où, la nuit où on a tué le général Maélé, la veille, on m'avait amené les médicaments parce que j'étais malade, et on a dit à ma famille, pourquoi vous l'amenez les médicaments, parce qu'on va les tuer cette nuit. Et les gens sont rentrés avec des choses et à manger, et les médicaments. Ça, c'est le plus mauvais souvenir de mon combat jusqu'à aujourd'hui.
Donc, il était prévu que vous soyez exécuté
avant les généraux. On ne savait même pas qu'on va exécuter le général, donc moi, c'était prévu que je devais être exécuté la même nuit, puisqu'on a fait rentrer et les médicaments et les choses à manger. Qu'il mange, qu'il ne mange pas, qu'il prenne les médicaments, qu'il ne prenne pas les médicaments, on va l'exécuter cette nuit.
Arrêtez. C'était quoi la raison pour laquelle on vous avait arrêté?
J'avais fait un point de presse en même ligne pour soutenir l'arrivée de l'AFDEL parce que l'AFDEL, moi je suis des convictions Lumumbis et l'AFDEL, Moïse Kabila parlait de Lumumba et que les chefs de l'AFDEL et numéro 1, Kissa Singandu, c'était notre un Lumumbis qui était exilé en Allemagne et on parlait de Lumumba, on parlait de la démocratie et ici toute l'opposition avec le président Tshisekedi, on affaiblissait le régime. Et nous étions des ténors ici à Kinshasa et nous on faisait des points de presse, des tracts pour affaiblir, pour mobiliser l'opinion à accepter que Kabila entre. Donc j'étais arrêté parce que j'ai soutenu l'entrée de Kabila, j'ai soutenu l'entrée de l'AFDEL comme tous les opposants y compris le président Tshisekedi. Tshisekedi. J'étais arrêté à l'hôtel Memling. Si vous demandez à l'hôtel Memling, en 95, 96, tous les chauffeurs là des taxis connaissent comment j'étais arrêté par les deux jeeps de la garde présidentielle.
Mais est-ce que c'est parce que vous n'en faisiez pas un peu trop?
Non. Notre combat, c'est qu'il y ait un changement, Madame Tilly. Qu'il y ait un changement et tout ce qui est pour le changement, on est prêt à mourir pour l'intérêt du Congo.
Vous êtes vraiment prêt à mourir pour le Congo, vous êtes sûr?
C'est la loyauté à la République.
Vous êtes sûr? Aujourd'hui, si on disait, Monsieur Diong, on va vous exécuter pour le Congo.
Si c'est mon sang qui est le prix à payer pour qu'il y ait l'amélioration de la qualité de vie des Congolais, qu'il y ait la liberté, qu'il y ait la démocratie, qu'il y ait tout, si c'est la seule pièce qui reste, je suis prêt à accepter comme sacrifice.
Mais on entend ça avec tous les politiciens. Hein?
On juge les arbres par leurs fruits, madame. Et pas seulement le maréchal Mobutu, et si vous me donnez un peu de temps, j'ai été arrêté par tout le monde, tout le régime.
Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Vous avez soutenu le régime de l'AFDEL avant son arrivée, mais quand le régime s'est installé, vous êtes resté toujours dans l'opposition.
Oui, ça veut dire que nous combattons pour la démocratie. Si on a combattu le maréchal Mobutu, c'est pas parce qu'on ne l'aimait pas. C'est un problème de combat sur les valeurs et sur les principes. Alors, quand le maréchal Mobutu est parti, Mouzé arrive, Mouzé, tous les partis politiques, il ne s'inscrit pas dans la logique de la démocratie, il ne s'inscrit pas dans la logique de l'unité nationale, de la réconciliation nationale, et pour ce faire, nous allons commencer à nous opposer à Moïse Kabila, et qui va également nous arrêter aussi, et je subirai la première arrestation, et dont je serai libéré par les représentants sociaux, M. Garreton des Nations Unies. C'est encore un remerciement aux Nations Unies d'avoir contribué à mon combat également, donc nous avons été libérés. Lorsqu'on parlait à l'époque de Moïse Kabila, qu'il y avait des prisons, il y a eu des gens qui étaient détenus dans des endroits secrets, des cachots non officiels. Frank Diongo était un. Et j'étais arrêté par GLM, on m'a transféré à la nerf extérieure. Vous voyez, la nerf extérieure, c'était en face.
Et donc, ce que vous attendiez du régime de l'AFDL, c'était pas ça sur terrain, c'était pas...
Non, sur le plan de la démocratie, ce qu'on attendait de Moïse Kabila, ce n'était pas cela qu'il a pratiqué. Donc, c'était une déception, ça ne s'inscrivait pas dans la logique de pluralisme politique.
C'est quoi le premier parti politique dans lequel vous avez adhéré lorsque vous êtes lancé dans la politique?
C'est MNC Lumumba. Oui, c'est un parti. Je suis d'origine lumumbiste.
Oui. Et vous êtes aujourd'hui, vous êtes chef d'un parti politique,
Lumumbiste, MLP. Exactement.
À un moment, il y avait des petits conflits entre les Lumumbistes. C'est comme ça que vous avez créé votre parti?
Bon, les problèmes ici, c'est le problème de la compréhension et de la clarification idéologique. C'est ce que je n'ai pas parlé déjà. Mais nous avons souhaité continuer le combat avec l'idéologie Lumumbiste comme base et jusqu'à arriver à la victoire finale. Je n'ai pas entré dans des conflits, dans les querelles, que ce soit des sigles idéologiques ou des personnes. C'est pourquoi je me réserve parmi les valeurs auxquelles je crois, c'est la modernisation des mœurs politiques. Dans les modernisations des mœurs politiques, je n'aime pas les attaques personnelles ou citer les noms des individus dans les combats. Il ne faut pas diaboliser les uns pour créer un espace.
Mais depuis que vous avez commencé votre combat, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous dire Frank Diongo a apporté une pierre, a apporté quelque chose pour l'amélioration ou le développement du Congo, pour que les choses changent au Congo?
Je vous ai dit oui, je vous ai dit que ce que je n'aime pas, c'est la trahison. Depuis que j'ai commencé, j'ai une loyauté à la République, j'ai une loyauté aux Congolais et je suis calme dans ma conscience. Notez par exemple, pas seulement que Moïse Kabila nous avait arrêtés après le maréchal Mobutu, mais lorsque nous arrivons, le président Kabila devient président de la République, il nomme son premier gouvernement, son deuxième gouvernement, je vois le professeur Théophile Bemba et directeur du cabinet, je suis consulté pour être nommé ministre, j'étais avec Diomi Dongala. Alors, parce que je crois au combat démocratique, Madame Kelly, je refuserais d'autres ministres, parce qu'il n'y avait pas de parti politique, comme nous avons combattu Moïse, je ne pouvais être ministre dans le cadre de CPP. Et dans cette loyauté-là, la République, je pouvais trahir ma conscience. Je ne peux pas devenir ministre dans un cadre de CPP, alors que nous croyons au combat des partis politiques, nous croyons à l'idéologie de la démocratie. Ça, c'est une évidence. Et deuxième exemple, vous trouverez que lorsque mon parti est retenu, l'MLP est retenu pour aller au dialogue intercongolais, parce que nous avons participé au dialogue intercongolais pour les comptes du MLP et notre parti, nous arrivons en Afrique du Sud, et le président Kabila et le président Jean-Pierre Bemba concluent un accord. Ce qu'on appelle l'accord des cascades, Frank Diongo refusera les promesses des postes et la corruption, parce que sur base des promesses des postes et des corruptions, qu'on avait conclu l'accord des cascades. Et Frank Diongo va s'allier avec Tshisekedi et les autres pour conclure l'accord global et inclusif. Et nous allons rencontrer plus de 15 chefs d'État au monde pour qu'il y ait la Cour globale inclusive. Donc j'ai contribué à l'avènement de la Cour globale inclusive qui a mis un terme à la guerre. Et bien que nous avons été artisans de cette Cour globale inclusive, nous avons été exclus dans les partages des pouvoirs parce que le combat c'est pour le Congo. Ça ne m'a pas démobilisé de continuer le combat bien que j'étais exclu au partage des pouvoirs.
Vous vous êtes dit, je veux poursuivre mon combat. Ce ne sont pas les postes qui vous intéressent.
Ce n'est pas les postes qui nous intéressent. Donc ça, ce sont des exemples de la loyauté à la République et de
vous
la continuité.
Vous êtes toujours proche du président Tshisekedi?
Nous sommes proches parce que les valeurs et les principes auxquels il croit, j'adhère et j'ai beaucoup appris de lui. Je lui suis très reconnaissant. J'ai une relation d'un père à un fils, d'un disciple à un maître. Je ne peux pas me conseiller à lui ou partenaire. Je me considère disciple.
Alors, héritier Sidiakala me signale qu'il y a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô?
Oui.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur, vous allez vous présenter. Je suis dans ce studio avec monsieur Franck Diongo, que vous connaissez sûrement très bien.
Oui.
Il est en train de se poser la question de savoir c'est qui parle au téléphone. Vous allez vous présenter?
Moi, c'est monsieur Lambert Tshiongo.
Alors, monsieur Lambert Tshiongo, dites-nous comment vous vous êtes connu avec l'honorable Franck Diongo.
Bon, l'honorable Franck Diongo c'est en quelque sorte un père pour moi. Et je crois que je l'ai connu avant qu'il entre même en politique. C'est en 1986.
Ça fait longtemps, plus de 20 ans.
La petite histoire que je... Bon, peut-être que lui-même a déjà oublié, c'est... On était à l'IBTP. Je lui rappelle qu'il avait créé une brigade autonome et cette brigade avait pour but de défendre les opprimés. C'est un monsieur qui est de nature humaniste, qui ne fait pas la souffrance des autres et lui s'opposait contre la blésaille. Quand il voyait les étudiants souffrir par la blésaille, c'est un monsieur qui était totalement opposé à de telles pratiques. Et c'est à partir de ça que j'avais opté dans sa vision. Vous comprenez qu'il avait une vision d'abord, avant même qu'il entre en politique, c'est quelqu'un qui est de nature humaniste.
Alors,
il défend les plus faibles et les plus opprimés.
Et donc c'est ça qui vous a marqué chez lui?
C'est ce qui m'avait beaucoup plus marqué. Et quand il est entré dans la politique, j'ai directement adhéré dans sa vision, dans la vision.
Alors là,
et jusqu'à aujourd'hui, c'est le même valeur qu'il continue à défendre.
Alors là, vous avez vanté ses mérites, ses qualités. On va parler de son mauvais côté. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez lui?
Son mauvais côté, je sais, bon, un mauvais côté pour les uns et
un bon côté pour les autres.
Un bon côté pour les autres. Hein. C'est quelqu'un qui défend toujours la justice. Hein? Donc, c'est l'injustice pour lui, ça n'entre pas. Je crois que c'est l'unique chose que je sais. Il peut être mauvaise pour les uns et bon pour les autres.
Non, mais pour vous personnellement, vous l'avez fréquenté. Ça fait plus de 20 ans que vous l'avez fréquenté, que vous le fréquentez même. Qu'est-ce que vous n'appréciez pas chez lui? Qu'est-ce qui doit changer chez lui? Qu'est-ce qui doit améliorer?
Bon, jusque-là, en tout cas, je ne vois pas. Je sais qu'il est dans une ligne qu'il continue à poursuivre.
Est-ce que vous dites ça parce que vous n'avez pas envie de le vexer?
Bon, pas nécessairement. Moi, je sais que quand je suis contre quelque chose, je dis que je suis contre. Hein. C'est pas pour le flatter. Et vous savez, nous nous flattons difficilement.
Vous qui?
Nous, les Lumumbistes, nous, de notre ligne. Nous sommes de la ligne pure et dure. Nous flattons difficilement.
Alors, monsieur Franck Diongo, un mot par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Vous êtes très humaniste. Vous défendez la cause des opprimés, vous l'avez dit tout à l'heure.
Bon, d'abord, ça me surprend de cette surprise. Comment vous avez pu être en contact avec un de mes collaborateurs, ça me surprend. Et ça me surprend même ce qu'il dit, j'ai totalement oublié ça.
Ça fait tellement longtemps?
Ça fait tellement... Non, le fait de tomber sur un de mes collaborateurs, ça m'impressionne. Et comment vous avez fait une recherche? Félicitations pour la surprise. Moi, je n'ai pas parlé de moi-même, je préfère que les autres parlent de nous. Mais ce qu'il faut noter, c'est que je vous ai dit que j'ai fait beaucoup d'efforts pour ne pas trahir ma conscience. J'ai fait beaucoup d'efforts pour être loyal à la République et à mon combat. C'est comme je vous disais que lorsque nous arrivons, après la conclusion de l'accord global et inclusif, nous rentrons ici, on nous excuse dans le partage du pouvoir, nous n'avons pas dit que parce que nous avons dépensé de notre argent, parce que tout le temps que nous sommes restés à l'Excel, nous nous sommes pris à notre propre charge. Je me rappelle d'arrêt une fois, nous sommes allés rencontrer le président Mugabe, et imaginez-vous que le président Mugabe, puissant république, il soutenait le président Kabila, et nous sommes allés avec le président Tshisekedi pour dire à Mugabe de ne pas laisser Bemba et Kabila faire leur gouvernement, et nous avions une situation pour dire, alors Mugabe n'écoute personne, si on nous assassine là-bas, si on nous empoisonne là-bas, si nous allons nous loger dans un hôtel, qui va nous sécuriser? Si nous mangeons ce qu'ils vont nous donner et si on nous empoisonne, là nous avons décidé d'accepter de mourir pour la cause du Congo. C'est une évidence. Et il nous a, heureusement qu'il nous avait bien reçus et on a terminé avec lui, on a bien parlé. Il a contribué également à ce qu'il y ait l'accord global inclusif.
Héritier, est-ce que le collaborateur est toujours en ligne? Vous me suivez?
Oui, madame. Oui, je vous suis.
Voilà, on va vous libérer. Mais avant de vous laisser partir, je vais vous demander une petite chose. Je vais vous demander de dédier une chanson à monsieur Franck Diongo.
Une chanson?
Ouais.
Oh.
Il n'aime pas la musique?
Bon, oui, la musique chrétienne, oui.
Seulement chrétienne?
Oui, il est catholique.
Ça n'empêche pas qu'il écoute la musique dite mondaine ou le folklore?
Bon, difficilement.
Il n'écoute pas ça, hein?
Non.
Bon, allez-y, quand même, dédiez-lui une chanson.
Ah, vraiment, c'est une surprise. Bon.
C'est difficile, hein?
Bon, la chanson pour la Vierge Marie, par exemple.
N'importe quelle chanson?
La Vierge Marie.
J'ai dit, on peut prendre n'importe quelle chanson de la Vierge Marie?
Oui.
D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission.
Merci, madame.
On vous souhaite un bon dimanche. Vous avez un mot à lui dire, monsieur Franck Diongo?
C'est d'abord, c'est la surprise. Et merci d'avoir rappelé ce qu'il a noté comme souvenir. Merci également qu'il connaît un peu mes valeurs et mes principes. Je n'aime pas la musique. Donc, je comprends que mes connaissances, il a été difficile de me dédier une chanson issue de la musique, surtout que notre musique, je ne crois pas. Je n'accepte pas les modèles. La manière dont nos musiciens chantent et dansent, il sait que je m'oppose à la manière dont la musique congolaise ou l'art congolais est en train de se conduire.
Toute la musique congolaise?
La musique congolaise scande, c'est un véhicule des anti-valeurs maintenant.
Merci beaucoup monsieur Chongo et puis on vous souhaite bon dimanche. Ah, il est déjà parti. Voilà, il est déjà parti. Alors, héritier Sidiakala va essayer de nous trouver quelque chose de doux. Pour votre plaisir, même si vous n'aimez pas la musique, nous on va vous dédier quand même quelque chose, hein, Franck Diongo.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Radio Okapi, Grand Témoin vous fait découvrir Franck Diongo Chamba. Il est député national en politique congolais, chercheur sur la question congolaise. On va parler actualité. Comme vous le savez, l'actualité aujourd'hui, c'est le discours du chef de l'État devant le Congrès. Discours dans lequel il a annoncé plusieurs décisions. Entre autres, la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale. On va suivre un extrait du discours du chef de l'État sur cette question. Et puis, on revient juste après pour avoir votre point de vue par rapport à ça.
Chers compatriotes, en ce qui concerne le gouvernement, je vous annonce que dans le cadre de ma politique d'ouverture, prônée depuis mon investiture, un gouvernement de cohésion nationale sera bientôt mis en place. Ce gouvernement, il comprendra aussi bien des représentants de la majorité que ceux de l'opposition et de la société civile. Et aura pour mission prioritaire le rétablissement de la paix et de l'autorité de l'État à travers le pays, la consolidation de la cohésion nationale, la poursuite de la reconstruction, l'appui au processus de décentralisation et à l'organisation des élections et bien sûr à l'amélioration des conditions sociales des populations. En attendant de mûrir le projet de création éventuelle de la fonction de médiateur, j'ai décidé la mise sous pied pour une durée initiale d'un an, renouvelable autant que de besoin, d'un comité national de suivi des recommandations de concertation nationale. Il s'agit d'une équipe restreinte, mais représentative aussi bien des 5 thématiques examinées au cours de concertation nationale que de la diversité des participants à ces forums historiques.
Voilà, c'était là le président Joseph Kabila devant le Congrès mercredi dernier. Alors, M. Franck Diongo, vous êtes chef d'un parti politique de l'opposition, le MLP. Oui, voilà. Comment vous avez accueilli ces discours du chef de l'État de manière générale, hein?
De manière générale, Mme Kelly, les discours du président de la République est un espoir déçu.
Pourquoi?
Un espoir déçu parce que ça ne répond pas aux attentes des Congolais. Premièrement, le lieu et les contextes.
Il n'a fait que répondre aux recommandations des concertations nationales.
D'abord, les contextes et les lieux qu'il a présenté ses discours, les congrès. J'avais publié, je vous ai dit dans mon introduction, dans le cadre de mes recherches, un document qui a démontré l'illégitimité et l'illégalité du Sénat. L'illégalité et l'illégitimité du Sénat privent les Congolais du congrès. C'est dire que le Sénat, ayant déjà toucher les indemnités de sortie, donc les sénateurs, les mandats, et a déjà inspiré depuis 2011 les dépassements des 2 ans en droit public aujourd'hui, que ce soit en droit constitutionnel ou en droit administratif, Madame Kelly, une institution de suppléance ou une institution d'intérim ne peut pas dépasser 4 mois dans tous les cas de figure. Donc dépasser 4 mois d'intérim égale agir illégalement. Donc, au nom du principe de la continuité de l'État, le Sénat ne peut plus continuer à ce jour. S'ils doivent expédier les affaires courantes, ils ne peuvent pas voter des lois, ils ne peuvent pas engager aujourd'hui l'État, ni les provinces, encore moins le peuple congolais. Et pour terminer cette partie-là, la preuve de cette illégalité, de cette illégitimité, pas seulement qu'ils sont hors mandat, vous trouverez que l'Assemblée nationale, qui est d'une autre législature, et le Sénat, qui est d'une autre législature, nous n'avons jamais voté un règlement intérieur. Il se pose un problème d'acte de la validité juridique des actes qui peuvent sortir de ces congrès-là.
Certains politiques disent que c'est un faux débat.
Il n'existe pas de faux débat parce qu'en fait, Madame Kelly, il y a une disposition de l'article 105 alinéa D qui dit que le Sénat reste en fonction jusqu'au Sénat prochain. Alors, l'interprétation erronée de cette disposition fait croire à l'opinion que cette disposition déroge, Madame Kelly, au caractère impératif, au caractère obligatoire de l'alinéa 1 du même article qui fixe le mandat à 5 ans. Dans l'esprit des concertateurs, dans l'esprit de la gestion des institutions aujourd'hui, c'est que on veut faire croire à l'opinion publique qu'on peut dépasser 5 ans du mandat impératif de la Constitution, du mandat obligatoire qui a un caractère impératif, donc et continuer à gérer. Et dans cette logique-là, on peut continuer 10 ans, 15 ans, 20 ans parce qu'il n'y a pas une autre Sénat. Et on n'a jamais expliqué aux Congolais pourquoi on n'a pas organisé les élections provinciales. L'urgence, et c'est le plus grand péché des concertateurs.
Un problème des moyens.
Le plus grand péché des concertateurs, c'est de n'avoir pas relevé la plus grande urgence de corriger les vides juridiques et institutionnels que le Sénat a créés à travers le manque d'élections provinciales. Les gouverneurs sont hors mandat, les députés provinciaux sont hors mandat, les sénateurs sont hors mandat. La situation de moyens. Le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, Madame Kelly, n'a jamais eu le temps, même jusque hier, même jusque le jour du Congrès, d'expliquer aux Congolais pourquoi on n'a pas organisé les élections locales. Il n'a jamais expliqué. Donc, il se pose un problème de la redevabilité, Madame Kelly. Donc, l'obligation de rendre compte. Donc, ici, c'est la volonté de dépasser indéfiniment les mandats. Et vous trouverez qu'en 2016, il n'y aura pas d'élection ni présidentielle, ni parlementaire.
Alors, on revient sur le discours du chef de l'État.
Alors, après avoir récusé les congrès qui n'existaient pas, par respect à votre personne, je réponds aux questions de ce qui a été dit dans ce discours. Sur ce qui a été dit dans ce discours, lorsque je prends la question, par exemple, je vous ai dit que c'était un espoir déçu. Globalement, c'était un espoir déçu. Les autres caractéristiques de ce discours. Premièrement, il n'y a eu aucun chiffre, aucune date, aucun chronogramme. Ça veut dire qu'on a tous les temps. On a assisté à un aveu d'échec.
Non, mais par exemple, pour le gouvernement de cohésion nationale, il a dit que c'était pour bientôt.
Non, il y aura. Le gouvernement, on ne peut pas l'appeler cohésion nationale ou union nationale. En fait.
Pourquoi?
Dans la définition en démocratie et dans la constitution de la République, vous avez une majorité, Mme Kelly, qui gouverne et une opposition qui se prépare à l'alternance ou à l'alternative crédible. Ceci dit, on ne peut pas être opposant ou un parti de l'opposition et avoir des ministres. Dès que vous avez des ministres, vous avez rejoint la majorité. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y a des nouveaux adhérents dans la majorité. Il y a l'opposition qui va rester. Opposition, nous serons là, nous resterons opposition. Tous les partis politiques qui auront des ministres deviendront des partis membres de la majorité réqualifiés. Donc, la constitution ne parlait pas des gouvernements de cohésion, d'union nationale, ainsi de suite.
Mais c'est pour décrisper un peu la situation des crises qui se vit dans le pays.
Non, mais si c'était pour la cohésion, et j'ai salué le rapatriement du corps de feu maréchal, de Papa Tshombe, mais Tshisekedi est vivant. Qu'est-ce qu'on a dit sur Tshisekedi? Qui est à Kinshasa qui est vivant?
Si vous c'est voulez la cohésion, qu'on dise quoi sur lui?
Il n'y a pas eu de cohésion nationale. Il se pose un problème de légitimité de pouvoir. Il faut engager un débat là-dessus. Madame. Tu sais, on ne peut rien faire dans un pays, Madame Kelly, s'il n'y a pas une réconciliation nationale. Je crois beaucoup à la réconciliation nationale comme le ciment, la cohésion de l'unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, la crise que nous avons est née des élections mal organisées de 2011. Ça, c'est une parenthèse. Donc, on aura un gouvernement qu'on peut qualifier tel qu'on veut, mais le vrai problème que nous avons, ce n'est pas l'avènement des autres personnes, c'est le problème de gouvernance. Quelles sont les idées que nous avons pour le Congo? Est-ce que le Congo reste une grande nation? Aujourd'hui, Madame Kelly, le grand Congo est descendu trop bas. Toutes les conditions de faillite sont réunies. Heureusement que le droit public international n'a pas prévu les institutions de liquidation des États. On cherchera un liquidateur. Et à ce moment-là, qu'il faut chercher qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le grand Congo essaie de se maintenir debout et marcher des concerts avec les restes des nations.
Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire?
Un schéma vers la réconciliation nationale, un schéma de la sincérité. La première chose que les Congolais attendaient du président Kabila, une minute de votre indulgence, madame, la chose la plus importante que les Congolais attendaient pour décrisper la situation politique, c'est l'engagement ferme du président Kabila de garantir les Congolais d'organiser les élections présidentielles en 2016 et que de garantir que lui ne va pas modifier et ne va pas ni modifier la constitution ni se servir de n'importe quel alibi pour se rester au pouvoir en au-delà de 2016.
Mais pourquoi vous pensez qu'il va...
Parce qu'il n'a pas pris cet engagement. Et en s'inscrivant par exemple dans le schéma Madame Kelly, d'organiser préalablement les élections locales et de dire aux sénateurs, aux députés provinciaux, aux gouverneurs d'y rester jusqu'à ce qu'ils seront remplacés à n'importe quelle élection, il s'inscrit dans la logique qu'il va dépasser lui aussi 2016 et qu'il n'y aura pas d'élection et tout le monde va s'accommoder à des institutions hors mandat qui se prolongera indéfiniment.
Ça, c'est votre interprétation à vous.
C'est la logique politique, ça m'engage.
Ce n'est peut-être pas ça qu'il a en tête, le chef de l'État.
Quand vous décryptez les discours et l'attitude de Mme Kelly, c'est cela. Parce qu'il faut apaiser les esprits et la conscience. C'est cette déclaration qui va décrisper la situation politique. Mais avoir le président Kabila, avec tout le respect que je le dois, Mme Kelly.
Vous estimez que le fait que le chef de l'État dise en 2016, je ne veux plus me représenter, ça va décrisper la situation politique du pays.
C'est la question de la volonté politique. Vous savez, Madame Kelly, je vous ai dit que le Grand Congo est descendu trop bas. Aujourd'hui, quand je prends la question, par exemple, de la guerre, on est peut-être président de la République pendant 11 ans et aujourd'hui, nous avons une partie de notre territoire sous contrôle des mouvements rebelles. Il y a un autre drapeau. Ils ont nommé toutes les autorités politiques ou administratives. C'est le chef de la politique de défense, de la politique étrangère. Aujourd'hui, Madame, la démocratie, c'est qu'un président soit remplacé par un autre président. Vous savez que dans mon combat, je vous dis que je peux ne pas être désagréable. On peut ne pas être d'accord, mais il faut être désagréable. Mais le monde a besoin d'un franc-parler, d'un parler clair, d'un parler vérité. Dans cette vérité-là, le discours du président Kabila, qui est un espoir déçu, ça augmente le désespoir des Congolais. Parce que vous ne pouvez pas venir donner un discours comme un président qui vient nouvellement d'être élu, qui vient de remplacer notre régime, avec de nouvelles promesses après avoir dirigé pendant 2 ans et demi. Et nous n'avons que 2 ans et demi. Et reconnaître l'aveu d'échec. Parce que lorsqu'on reconnaît l'aveu d'échec, il faut assumer. Et lorsqu'on assume, on laisse la chance que l'alternative soit crédible, soit organisée. Aujourd'hui, il voudrait réduire la contestation en recrutant graduellement des gens en faisant les débauchages sélectifs. Le maréchal Mobutu a fait la même recette. Ça veut dire que c'est servi de l'usure du temps, procéder à un débauchage sélectif pour finalement épuiser toute l'opposition et tout le monde deviendra responsable de l'échec. Ceci dit, Madame Kelly, je crois que la démarche sincère que le président Kabila doit faire demain et aujourd'hui, c'est de se détacher, de s'accrocher au pouvoir. Ce qui compte est les concertations et les congrès. C'est au lieu de chercher à répondre aux problèmes que le pays est confronté, on cherche quelle est l'intelligence pour rester le plus longtemps au pouvoir. C'est cela ce qui trahit le pays. Et pour terminer, vous avez attendu que la guerre a repris du côté de l'Est. Il n'y aura jamais de solution militaire. Comme chercheur sur la question congolaise, il n'y aura jamais de solution militaire aux problèmes qui sont à l'origine de la crise. Il faut une solution diplomatique et politique à la crise du Congo. Il faut revenir à la situation interne et sincère et voir l'approche régionale et internationale.
Monsieur Franck Diongo, aujourd'hui vous êtes député national. En 2006, vous avez été élu, mais après vous avez été invalidé. Quel effet ça a eu sur vous?
Non, vous savez que la devise de mon parti, c'est la lutte libère. Et je crois que l'intervenant, par surprise, l'ingénieur Lambert, que je salue, et vous a relevé quelque chose. Je n'accepte pas l'injustice. En 2006, au nom de mon parti, j'étais élu 4e à Lukunga sur 900 candidats. Et le 4e qui n'était pas le dernier, j'étais injustement invalidé parce que mes positions ne correspondaient pas à ces pouvoirs. Et lorsqu'on m'a invalidé, je refusais cette invalidation. Je me rappelle, le président Kamere nous a demandé de donner les CV qu'on va nous nommer, on peut raconter le président Kabila. J'avais dit que je ne peux pas perdre un droit pour attendre une faveur. C'est comme ça que j'ai amené les dossiers au niveau de l'Union interparlementaire à Genève. J'ai pas été comparaître chaque 3 mois et j'ai gagné les procès contre l'État congolais et j'ai eu une résolution, une décision en fait, qui m'a réhabilité. Malheureusement, au Congo, on ne m'a pas réinséré au Parlement. Donc, j'étais moralement à l'aise. Et ici, vous avez vu qu'en 2011, comment quelqu'un qui n'a pas été élu, sur 900 candidats, vous l'avez invalidé. Et en 2011, sur 1500 candidats, le quinoa m'a honoré et je suis le député le mieux élu. C'est-à-dire que le premier des 13 élus sur les 1500 candidats de la Lukunga. Donc, cela vous démontre combien de fois je suis victime. Et vous avez d'une injustice et que je m'oppose toujours, et vous avez vu que le jour même des élections, parce que je n'accepte pas la fraude, je m'engage au combat, j'ai amené des gens à la MONUSCO ici, je me suis retrouvé en prison parce que j'ai combattu les antivaleurs.
Merci, honorable Franck Diongo. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Nous sommes à la fin de notre entretien. Alors, vous avez un message particulier à adresser à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Le message particulier que je dois leur dire, c'est un appel pathétique à tous les Congolais de la diaspora, tous les Congolais d'ici, à aimer le Congo. Le président Kabila conduit le pays dans la ruine. Nous devons défendre le pays, nous devons défendre le Congo. Et au président Kabila, je le demanderai à mettre un terme à des institutions hors mandat et de tout cœur, qu'il y ait des élections présidentielles et des députés en 2016. Et avant cela, qu'on organise d'abord des élections provinciales de sorte qu'on ait un Sénat qui correspond à la même législature que l'Assemblée nationale. C'est l'amour du Congo avant tout.
Merci beaucoup, honorable Franck Diongo. Je vous souhaite un bon dimanche et beaucoup de courage dans votre combat ou dans votre lutte. Merci à Héritier Sidia Kala qui était à la technique, au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.